Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui d'Abraham, Isaac et Jacob, modèles des chrétiens dans le monde moderne. Dieu a déjà été obligé de se fâcher contre les hommes avec le déluge, puis avec la tour de Babel. Et voilà que cela recommence. Nous avons affaire à une société qui a perdu la foi. Je parle de la Mésopotamie. Le père d'Abraham est le seul à avoir transmis la foi et il l'a perdue. La foi ne s'est jamais éteinte dans le monde, jamais. Parce que lorsque Taré, le père d'Abraham, est passé à l'idolâtrie, Abraham, lui, était fidèle au vrai Dieu. Cette société mésopotamienne était très développée. On dirait aujourd'hui qu'elle était très civilisée. Non, c'est pas vrai, parce que la civilisation, justement, repose sur la religion, sur la vertu. Donc, nous avons une cité qui est très développée. On a retrouvé de cette époque, à Marie par exemple, trois canaux qui ont été creusés, un pour l'irrigation, l'autre pour accéder au port, et le troisième de 120 km de long pour assurer la circulation fluviale sur l'Euphrate. Alors, je ne sais pas si vous imaginez creuser un canal de 120 km. Cette société est puissante, elle est riche. On le sait par toutes les tablettes d'argile qu'on a retrouvées. Que va faire Dieu face à cette société développée par la technique, développée par la domination politique, mais qui est tombée dans le culte, justement, du monde d'ici-bas, qui vit pour la gloire terrestre et non plus pour la gloire de Dieu? Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Quitte ton pays et ta famille et marche en ma présence. » Dieu ne lui dit pas de chercher à changer les choses de l'intérieur, il ne lui demande pas de faire un parti politique avec des élections, que sais-je. Il lui demande encore moins de s'adapter à cette mauvaise et fausse civilisation. Il lui donne une seule consigne, « Sors et marche en ma présence. » Abraham sera un homme riche parce qu'il a des troupeaux, mais qui ne possédera jamais rien d'autre que des troupeaux, aucun immeuble, aucun bien foncier auquel on s'attache. Lorsqu'Abraham est sorti, Dieu va faire avec lui une alliance, et ça c'est le point le plus important. Une alliance qui marque tout l'Ancien Testament comme la Nouvelle Alliance marque le Nouveau Testament. Je veux vous montrer comment un chrétien se conduit dans le monde moderne. Eh bien, il faut absolument faire référence à cette alliance, puisque le Saint Sacrifice de la Messe, c'est le renouvellement de l'alliance, mais avec une nouvelle alliance, une nouvelle qui désormais n'est plus la promesse du Christ, mais sur la venue du Christ avec le sacrifice de la croix. Qui dit alliance, dit contrat, dit donc confiance et fidélité. C'est déjà merveilleux de voir que Dieu traite Abraham avec confiance et fidélité. Dieu sera fidèle si Abraham est fidèle. La nouvelle alliance, elle, ira plus loin. Elle sera fondée sur l'amitié, ce qui va plus loin que la confiance et la fidélité. Et les deux sont centrés sur la croix. C'est pourquoi Dieu, très tôt, va demander à Abraham le sacrifice d'Isaac, alors qu'Isaac est le fils de la promesse de l'alliance. Abraham aura une descendance aussi nombreuse que les grains de sable du littoral de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il aura cette descendance par Isaac, qui est le fils de la promesse, et voici que Dieu demande à Abraham d'immoler Isaac. Abraham a la foi, et les pères de l'Église nous disent qu'il sait qu'après l'avoir immolé, Dieu le ressuscitera, ressuscitera Isaac. Dieu ne veut pas aller jusqu'au bout. La preuve de la fidélité d'Abraham lui suffit, et vous savez qu'il arrête le bras d'Abraham qui n'immolera pas son fils. Il s'agissait là de l'annonce du sacrifice de notre Seigneur sur le bûcher de la croix, sur le bois de la croix, et notre Seigneur en témoigne, Abraham a vu mon jour, c'est-à-dire qu'Abraham a connu le mystère de ce que Dieu lui demandait de réaliser. Premier enseignement que je veux tirer de ce récit, qui est très important ce récit, vous voyez. Pourquoi le bon Dieu raconte-t-il cela dans l'Écriture sainte? Parce que les biographies sont l'histoire du Saint-Esprit, les vies de saints sont l'histoire du Saint-Esprit en action dans les hommes et dans le monde. C'est pourquoi il est très important de lire les vies de saints. Et Dieu va choisir, il nous raconte l'histoire de quelques saints qui sont des modèles. Et puis vous avez également, surtout dans tout l'Ancien Testament, une annonce des luttes, des défaillances, des retours à Dieu, mais toujours dans la lutte. La vie des chrétiens, des croyants, qui sont chrétiens puisqu'ils croient au Christ, de l'Ancien Testament, n'est jamais une vie tranquille, c'est toujours, toujours une vie de lutte, parce que nous ne nous attachons pas au siècle présent, nous passons dans le siècle présent pour nous attacher au siècle futur, c'est-à-dire au ciel. Il n'est pas possible que le chrétien vive moins du Saint-Esprit qu'Abraham. Abraham, c'est l'Ancien Testament, bien sûr, il est un patriarche, mais il est absolument certain que le chrétien aujourd'hui est inspiré par le Saint-Esprit comme tous les chrétiens l'ont été et comme les chrétiens de l'Ancien Testament l'ont été. Et cela est remarquable chez Abraham, Isaac et Jacob, qui n'avaient pas de prêtre, n'avaient pas de sacrement, n'avaient pas d'église et de magistère de l'église pour les guider, et qui non seulement ont conservé la foi, mais ont été les pères des croyants. La similitude avec le monde d'aujourd'hui est absolument frappante. Abraham va assumer ses responsabilités. C'est le deuxième point que je vais vous faire remarquer. Le premier point, c'est que on vit d'une vie intérieure avec Dieu, et cette vie est la vie du Saint-Esprit. On a fini au cours des siècles par se méfier et ne pas croire à l'action du Saint-Esprit dans les âmes des chrétiens, c'est ce que je vous disais au sermon dimanche dernier, on perd l'enthousiasme de la charité, donc on n'arrive plus à comprendre, à entrer dans la sagesse du Saint-Esprit. Par conséquent, les chefs finissent par se méfier de leurs subordonnés. Les chefs eux-mêmes ne commandent plus au nom du Saint-Esprit, mais au nom de leur volonté. Et le bon Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob, nous montre que dès le début, il agit dans l'âme directement, et j'allais dire presque d'une façon infaillible. Saint Paul dit que nous avons la grâce dans des vases fragiles. Ce n'est pas la grâce qui est fragile, c'est le vase. L'action du Saint-Esprit a quelque chose d'infaillible. C'est nous qui sommes faillibles et qui pouvons échapper au Saint-Esprit. Et lorsque nous y échappons, nous le savons bien. Et une des manières d'y échapper, c'est ce que je vous ai dit dans les sermons précédents, c'est la cédille, c'est-à-dire perdre l'enthousiasme de l'amour de Dieu. La deuxième leçon que nous pouvons tirer d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est qu'ils assument leur responsabilité pour maintenir l'alliance et pour la faire progresser dans le monde. Abraham va veiller au mariage de son fils Isaac. Dans l'Écriture sainte, la page dans laquelle le serviteur d'Abraham suit les consignes de son maître pour choisir une épouse, qui sera Rebecca, à son fils Isaac, c'est absolument merveilleux. Le serviteur teste cette jeune fille qui vient vers lui. Et lorsqu'il est d'accord avec son père pour qu'elle épouse Isaac, qui est loin, parce que c'est une autre contrée, puisque Abraham a quitté sa famille, il est évident que la famille d'Abraham est loin. Lorsqu'ils sont d'accord pour donner leur fille et leur sœur à Isaac, le serviteur dit, mais très bien, nous partons maintenant. Les autres vous veulent garder, Rebecca. Oh, laisse-la nous encore 10 jours. Et non, on ne fait pas attendre Dieu. Et le serviteur dit non, c'est maintenant. Alors on demande à Rebecca, qu'en penses-tu? Et Rebecca dit, je pars avec lui. On ne fait pas attendre Dieu. Ces pères qui assument leurs responsabilités, d'abord font confiance à Dieu. Le serviteur va prier Dieu de lui indiquer la femme qui convient. Ils font confiance à Dieu. Deuxièmement, ils assument leurs responsabilités. Et troisièmement, ils agissent jusqu'au bout. Isaac est donc marié avec Rebecca, qu'il aime beaucoup, laquelle lui donne 2 fils, Jacob et Ésaü, et c'est de nouveau la guerre. Ésaü est l'aîné, mais pour un plat de lentilles, par intérêt pour les choses d'ici-bas, parce que d'être le fils de la promesse, ça ne l'intéresse pas particulièrement, il vend son droit d'aînesse à Jacob. Autant dire que l'un est charnel, c'est Ésaü, l'aîné, l'autre est spirituel, et donc l'héritage passe à celui qui est spirituel. Rebecca est au courant de cela, elle connaît le plan de Dieu, le plan de la Providence, et lorsque Isaac va vouloir bénir son fils aîné, elle sait que le fils aîné n'est pas Ésaü, mais Isaac, dans le plan de Dieu, vous voyez, et elle opère la substitution. Isaac, lui, n'est pas au courant. Dieu ne révèle pas tout à tout le monde, hein. Puisque la vie ici-bas est une épreuve de la foi, Dieu ne révèle pas tout, il demande d'être fidèle, mais il ne révèle pas tout. Isaac bénit Jacob, en croyant bénir Ésaü, et quand il découvre la substitution, il assume, il refuse de revenir en arrière. Il sait que Dieu lui a guidé la main. Il aurait été très facile de dire « j'ai été trompé », ce qui est fait sous l'influence de la tromperie est nul, et il aurait très bien pu maudire Jacob de l'avoir trompé et donner la bénédiction à Ésaü. Au contraire, il maintient la bénédiction à Jacob, il ne maudit pas Ésaü qui n'y est pour rien, mais il lui donne une bénédiction que dans les fruits de la terre. Et une bénédiction comme cela, ça ressemble un peu à une malédiction. Jacob, évidemment, va aussitôt fuir sur les conseils de sa mère, parce que Ésaü est furieux et a décidé de le mettre à mort. Et dans la fuite, Dieu va lui donner la vision de l'échelle de Jacob, qui est très importante. Donc vous voyez, Jacob fuit, il n'a plus rien, il est, on pourrait dire, presque désemparé. On peut dire qu'il est le seul de sa génération à avoir la foi. Et que va faire Dieu? Non seulement il va le réconforter, il va se révéler à lui. Et Jacob voit cette échelle avec des anges qui montent et qui descendent. L'échelle est appuyée sur la terre, en bas, elle est appuyée sur la Sainte Trinité, en haut. Et c'est un mouvement incessant entre le ciel et la terre. Les pères de l'Église nous disent que ces anges sont les prophètes qui viennent chercher les hommes et conduisent les hommes à Dieu. Ce sont également tous les envoyés de Dieu, y compris les évêques. Saint Benoît, dans sa règle, dit que cette échelle est celle de l'humilité. Ce n'est pas contradictoire, ça complète très très bien. On monte au ciel par l'humilité. Les anges descendent vers les hommes, par obéissance à Dieu et par humilité, et les hommes, par humilité, remontent à Dieu. Jacob fait connaissance de Rachel là-bas, il voit très bien que c'est la femme que Dieu lui destine. Il travaille 7 ans pour avoir Rachel, son oncle Laban le roule, et lui donne Léa à la place. Il aurait très bien pu déclarer que ce mariage était nul. En droit, ça s'appelle erreur substantielle sur la personne. Non, il voit là encore l'action de Dieu. Il sait que Dieu n'a rien fait en vain. Et il est inspiré du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre ça sans voir que le Saint-Esprit lui a dit « c'est moi qui ai voulu cela ». Et il travaille 7 années de plus pour avoir Rachel. Puis il rentre. Et sur le chemin du retour, il sait qu'il va rencontrer Ésaü. Et là, de nouveau, un événement extraordinaire, surnaturel, c'est la lutte avec l'ange. Dieu envoie un ange qui va lutter avec Jacob pendant toute la nuit. Et c'est extraordinaire parce que l'ange pourrait aplatir Jacob comme rien. Et au contraire, l'ange n'arrive pas à dominer Jacob. Jacob n'arrive pas non plus à dominer l'ange. Le combat va se terminer à égalité. L'ange va quand même marquer Jacob et lui faire remarquer qu'il aurait très bien pu le vaincre s'il avait voulu, en le blessant à la cuisse, ce qui fait que Jacob boitera tout le reste de sa vie. On a là quelque chose, vous voyez. Dieu montre à Jacob qu'il lui communique sa force et que dans la lutte contre le monde et ses ennemis, puisque Ésaü c'est le monde et donc les ennemis de Dieu, dans la lutte contre le monde et ses ennemis, Jacob et donc tous ceux qui ont la foi sont vainqueurs. Et nous-mêmes nous sommes vainqueurs avec Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Lorsque nous luttons contre le démon, et je pense que je vous ferai des sermons là-dessus, lorsque nous luttons contre les démons, nous luttons contre un vaincu. Si le démon est plus fort que nous, c'est que nous avons bien voulu céder devant lui, parce qu'il a été vaincu par Jésus-Christ, ce monde est jugé, ce monde est condamné, le démon est déjà vaincu. Eh bien, père de famille qui m'écoutait, mais pas seulement les pères de famille, tout chrétien qui a la responsabilité de soi-même. Ne vous inquiétez pas, premièrement, de ce que l'Église soit dans une lutte continuelle. Ne vous inquiétez pas de ce que le monde semble être victorieux aujourd'hui sur l'Église. Il est tout à fait possible que le gouvernement nous impose un troisième confinement sécuritaire pour mettre fin à cette révolte des quartiers aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça se fera, mais tout est possible avec eux. Ne vous en inquiétez pas. Pensez d'une part à l'échelle de Jacob, qui vous met en contact directement avec Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, et puis des anges, vous en avez eu quand même. Vous avez eu tous les prophètes, vous avez eu tout l'enseignement de l'Église, tous les papes qui ont précédé. Bien sûr, les papes actuels déraillent complètement. Pratiquement, il y a peu d'évêques, mais vous avez la chance d'en avoir quand même encore. Vous êtes peut-être coupé d'eux, à savoir que vous ne pouvez pas les voir, que vous ne pouvez pas profiter de la messe des prêtres, mais vous n'êtes pas coupé de Dieu. Et puis, rappelez-vous, la lutte avec l'ange, dans laquelle vous êtes absolument certain d'avoir la victoire. Un mot pour terminer sur les épouses. La première qualité des épouses, elles sont humbles, et par cette humilité, elles adhèrent à la foi de leur époux. Elles vénèrent leur mari. On voit que ces épouses, Rebecca, Rachel, sont des femmes qui vénèrent leur mari, et l'Écriture sainte nous les montre en modèle, non pas parce qu'il y a envers leur mari un amour humain de passion extraordinaire. Il y a de la passion, mais c'est une passion au service de la foi. Et grâce à cela, ces épouses prennent elles aussi leurs responsabilités. Ce ne sont pas du tout des nouilles ou des esclaves. Elles prennent leurs responsabilités. Elles veillent à l'accomplissement de la volonté de Dieu, notamment Rebecca sur Isaac, qui organise la transmission de la promesse selon le plan de Dieu et qui prend les choses en main. Votre échelle de Jacob, c'est le chapelet, le rosaire, la communion spirituelle, la messe spirituelle. Votre sacrifice d'Isaac, c'est le chemin de croix. Vous êtes les fils de la promesse et c'est à vous de la transmettre à votre tour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.